De Franck Nohain, Les mémoires de Foutit et Chocolat. Chapitre 1er, l'enfance de Foutit. Soyez tranquille, Master Foutit. L'éducation du petit jeune homme est en bonne main. Et la main longue et sèche de l'honorable Monsieur Phipps tapotait les joues du petit jeune homme de 8 ans et demi, qui regardait cependant d'un œil un peu inquiet l'imposante cravache que le vieux gentleman tenait toujours sous son bras gauche. La vieille dame assise aux côtés de Monsieur Phipps, une très respectable vieille dame, avec un haut bonnet de dentelle noire et des lunettes d'or, et qui n'était autre que Madame Phipps elle-même, la vieille lady se mit aussi à tapoter les joues du petit jeune homme. « Et si ce petit jeune homme aime le pudding, Master Foutit ?» dit-elle d'une voix enjouée et amicale. « Il vous écrira bientôt des nouvelles du pudding de Madame Phipps. » Et c'est ainsi qu'un jour de novembre 1872, Monsieur Foutit, qui dirigeait à Manchester le célèbre Foutit Greathead Circus, vint faire inscrire son fils aîné parmi les élèves d'Arnold College, institution fort avantageusement connue dans la campagne de Nottingham, où, moyennant 1500 francs par an, concurremment au pudding de Madame Phipps, nourriture corporelle, M. Phipps assurait pour sa part le soin de nourrir les jeunes cerveaux. Certes, entre tous ses camarades, presque tous fils de négociants des environs, le nouvel élève d'Arnold College était vraisemblablement le seul capable de se tenir les jambes en l'air, en équilibre, sur la chaise du professeur, et de se présenter devant le tableau noir en exécutant le saut périlleux. C'est que, dès l'âge de 4 ans, son père l'avait accoutumé à travailler avec lui dans son cirque. Master Foutit entrait en piste, apportant quelque chose de roulé dans un grand mouchoir. Ce quelque chose, c'était le jeune Foutit, qui, sorti du mouchoir déplié, sautait à pieds joints sur les mains croisées de son père, puis sur les épaules, puis sur la tête. Et comme il était déjà facétieux, parfois, lorsque le père s'était allongé à terre pour se relever en force, le gamin feignait de trébucher et lui montait sur le nez. Cet enfant de 4 ans n'était pas très lourd, et le nez de M. Foutit en avait vu bien d'autres. Tout de même, il fourrait aussitôt Foutit Junior dans le mouchoir. Il replaçait le mouchoir sous son bras, et, en s'en allant, le bras serrait un peu plus qu'il n'eût convenu le mouchoir. C'était la façon de Master Foutit d'apprendre à son fils le respect paternel. Et il va sans dire que ce sont là procédés d'éducation qui devaient être peu courants dans les familles de négociants de Nottingham. Mais pour ce qui est des éléments de la grammaire et des premières notions d'arithmétique ou de géographie, le jeune Foutit en savait presque autant que ses petits camarades du même âge. Car, au cirque de Manchester, comme dans tous les cirques d'ailleurs, il y avait alors le « maître de ballet », qui avait mission d'utiliser les loisirs que lui laissait la mise en scène des pantomimes en enseignant à lire et à écrire aux enfants de la compagnie. La pantomime, n'est-ce pas, en effet, ce qui rattache les cirques à la littérature. Le jeune Foutit arrivait en somme à Arnold College avec cette supériorité qu'à un âge où bien des petits garçons rêvent de s'enfuir du collège pour aller s'engager dans un cirque, il avait déjà une vieille expérience des cirques alors qu'on le mettait au collège. Je ne me dissimule pas que bien des jeunes gens qui liront ces lignes seraient ravis d'apprendre que l'élève Foutit fut un terrible garçon dont les tours pendables bouleversèrent Arnold College et qui, par son indiscipline féconde en ruses ingénieuses, causa 1000 tourments à l'honorable Monsieur Phipps et à Madame Phipps, sa digne épouse. Et je sais aussi que, par contre, bien des parents me sauraient gré de pouvoir citer à leur fils l'irréprochable conduite et l'application exemplaire de l'élève Foutit. Plus tard, tu feras ce que tu voudras, des verres ou de l'automobile. Mais on est au collège, c'est pour travailler. En tout, il n'y a que les bons élèves qui réussissent vraiment. Footit était un excellent élève. Eh bien, non. Malgré le plaisir que nous aurions eu à ce qu'il se dégageât de tout ceci un petit enseignement moral, non, Footit ne fut pas ce qu'on peut appeler un excellent élève. Et dû notre récit y perdre un agrément notoire, il nous faut reconnaître également qu'il ne fut pas non plus le damné mauvais sujet ni le cancre exécrable que, jeunes gens, vous vous plairiez à imaginer. Sans doute, il lui arriva bien une nuit, au moyen d'un lasso mystérieusement confectionné, d'atteindre, avec une habileté d'Indien Sioux, la cloche du réveil qu'il se mit à agiter à toute volée, arrachant brusquement au sommeil maîtres et élèves et les jetant hors de leur lit affolés. Mais justement, n'était-ce pas pitié, être aussi merveilleusement doué pour combiner les farces les plus imprévues, avoir imaginé celle-là, et n'en avoir jamais recommencé d'autres. Pourtant, M. Phipps n'était pas bien sévère, en dépit de sa cravache. D'ailleurs, cette cravache qu'il ne lâchait jamais se rapportait seulement à une légende, d'après laquelle M. Phipps, avant d'être gérant de collège, et surtout avant d'épouser Mme Phipps, aurait été un cavalier fervent et émérite. À la vérité, personne à Nottingham ni aux environs n'avait le souvenir d'avoir jamais vu M. Phipps monter sur un cheval. Mais il n'était pas rare qu'on le rencontrât qui se promenait à pied à travers la campagne, en faisant, d'un bras encore vigoureux et alerte, tournoyer et siffler sa cravache. M. Phipps aimait infiniment mieux se promener dans la campagne que de rester enfermé dans sa classe. Il avait proprement une âme virgilienne. Ce sont ses goûts bucoliques qui l'avaient poussé à créer, à Arnold College, un cours de jardinage. Il était attribué à chaque élève un petit carré de jardin que chacun ensemençait, plantait, cultivait et ornait à sa guise. Une vive émulation régnait entre tous ces jeunes jardiniers, car il était entendu que les plus belles fleurs seraient choisies par Madame Phipps pour les corbeilles de son salon. Et quant aux légumes, le plus grand honneur était qu'ils fussent reconnus dignes de figurer sur la table par la cuisinière. C'était donc à qui se ferait acheter et envoyer par sa famille les graines les meilleures, les plantes les plus rares. Un fuchsia superbe que son père lui expédia de Manchester valut une année à Footit le prix de jardinage. La vérité nous oblige à ajouter que c'est le seul prix que Footit ait remporté durant les 4 ans qu'il demeura à Arnold College. Il y avait cependant un autre cours auquel le jeune Footit s'appliquait avec une assiduité méritoire. C'est le cours de couture que 2 fois la semaine professait l'excellente Madame Phipps en personne. Des esprits mesquins et mal tournés prétendront peut-être qu'en enseignant à ces jeunes gens à repriser leurs chaussettes et à recoudre les boutons de leurs chemises, Madame Phipps poursuivait surtout une économie de lingère. Ne dites pas cela à Footit. De tout l'enseignement d'Arnold College, c'est la seule chose qui lui ait vraiment servi à quelque chose. C'est grâce à Madame Phipps et à ses leçons qu'il a su par la suite, et toujours, confectionner ses maillots de clown. Maintenant encore, il se plaît à en assembler lui-même, à sa fantaisie, les pièces aux couleurs chatoyantes et bariolées. Et en les assemblant, il songe à Madame Phipps. Il n'a pas oublié Madame Phipps. Mais il ne peut pas oublier non plus le pudding de Madame Phipps. Chapitre 2. Le pudding de Madame Phipps. Le pudding de Madame Phipps était le fond de l'alimentation d'Arnold College. Il en formait le principe et la base. Invariablement, chaque repas déboutait par ce pudding. On apportait le pudding et Madame Phipps, qui présidait la table, remplissait les assiettes impitoyablement. Et c'est seulement lorsqu'on était bourré de pudding. « Mangez, mangez !» insistait Madame Phipps. « Il n'y a rien de plus sain que le pudding, et de plus nourrissant. » Après cette cure de pudding, alors seulement apparaissait le maigre menu. Vraiment maigre, et vraiment menu. Mais qu'importait? Le pudding n'avait-il pas pris toute la place? Détestable et encombrant pudding de Madame Phipps. Moins détestable peut-être qu'encombrant. Pendant 4 ans, Footit a mangé ce pudding, et après 30 ans passés, il lui semble parfois qu'il en mange encore. Et voilà pourquoi Madame Phipps à table. Mangez, mangez, il n'y a rien de plus nourrissant. Voilà pourquoi la physionomie de Madame Phipps a toujours hanté les rêves de Footit, et pourquoi chaque fois qu'il a dû, pour quelque pantomime, se grimer en vieille dame, tout naturellement, inconsciemment presque, il a imité le bonnet et les lunettes et les anglaises encadrant la figure et la façon de s'habiller et la démarche et les attitudes et les tics de la respectable et redoutable Madame Phipps. Ah, du moins, les vacances délicieuses que, loin de Madame Phipps, de ses œuvres et de ses puddings, passait alors le jeune Footit. Pendant ces mois d'été, qui sont les mois de vacances, le cirque paternel ne séjournait pas à Manchester. On allait de ville en ville, au gré d'une tournée fructueuse, mais aventureuse. Si bien que la première année, le prévoyant Monsieur Phipps, ne sachant où diriger exactement son jeune élève, et dans la crainte que, de l'adresse qu'on lui avait indiquée, le cirque de Monsieur Footit ne fût peut-être parti, le prévoyant Monsieur Phipps avait mis le petit Footit dans le train à Nottingham avec, suspendu autour du cou, une petite pancarte sur laquelle il avait écrit de sa plus belle ronde « Footit Great Hulliard Circus ». Et sans doute l'homme de cheval qui dormait au fond du régent d'Arnold College enviait à part lui l'heureux collégien qui pendant 2 mois pourrait se livrer réellement aux joies profondes de l'équitation. Et le doux Monsieur Phipps s'en revenait de la gare en faisant tourner sa cravache avec plus de mélancolie. Le meilleur temps des vacances du jeune Footit était en effet consacré à l'équitation. Il ne paraissait plus sur la piste, mais presque chaque jour, on lui faisait monter les petits poneys qui figuraient le soir dans la chasse aux renards, le classique numéro des cirques d'alors. Et sa grande fierté était de pouvoir accompagner ainsi, à la promenade, l'écuyère remarquable qu'était sa mère. Quelle jolie chevauchée! Quelles équipées étonnantes à raconter à la rentrée à ses petits camarades! Quels admirables souvenirs de vacances! Cette fois, par exemple, où il revint au collège, le visage tout balafré par les griffes d'un ours. Oui, l'ours du cirque, l'ours cavalier qui tournait sur la piste, monté sur ce même petit poney que dans la journée on prêtait au jeune Footit. Il y avait peut-être de la jalousie, en effet, de la jalousie équestre dans la façon dont il avait égratigné son jeune rival, qui avait culbuté dans la fosse où on le tenait enfermé. Mais quelle balafre glorieuse pour un collégien, au milieu d'autres collégiens qui, tout au plus, furent égratignés par le chat d'une vieille tante, ou par quelque impatiente et taquine petite cousine. Et le jeune Footit grandissait ainsi, parmi l'admiration de ses petits camarades, et, sans éclat mais non sans prestige, sur les bancs d'Arnold College, usait ses premières culottes, qui n'étaient pas cependant culottes de clown. Et puis un jour, comme il allait atteindre sa 14e année, un jour, en pleine étude, il fut brusquement mandé dans le cabinet où Monsieur et Madame Phipps tenaient leurs audiences. Le vieux gentleman avait l'air plus triste et solennel que de coutume, et une émotion pas habituelle semblait colorer le visage d'ordinaire impassible de Madame Phipps. Une dépêche venait d'arriver, annonçant que le père de Footit était mort et que la mère, d'urgence, rappelait son fils auprès d'elle. L'enfant ressentit un gros chagrin, et comme il ne faisait pas encore profession d'être clown, il n'eut pas à cacher ses larmes. Son père, son maître, il songea qu'il ne le verrait plus, avec son maillot tout étincelant de paillettes et sa perruque de folie, en haut de laquelle un papillon se balançait. « Ce papillon qui l'intéressait tant, lui avait-on confié, lorsque son père, au moment de la représentation, se penchait sur son berceau pour l'embrasser, tout petit. Et il se rappela leurs exercices ensemble, et le grand mouchoir dans lequel il lui sembla que, sur le moment même, il le serrait bien fort, si fort que c'était son cœur qui, maintenant, s'en trouvait tout serré. Et lorsqu'il eut fait ses adieux, rangé son bagage d'écolier, Foutite descendit au jardin, dans son jardin. Le fuchsia y était encore, le beau fuchsia donné par son père. L'enfant cassa une petite branche. Cette tige desséchée et ses feuilles fanées, Foutite ne s'en sépara jamais. La prospérité du Foutite Guitaliud Circus ne devait pas survivre longtemps à son directeur. La mère de Foutite manquait de l'activité nécessaire pour assurer le succès de la considérable et difficile entreprise qu'est, avec son personnel, son matériel, ses chevaux, un grand cirque ambulant. Et puis, le jeune Foutite n'avait point tardé à sentir une autre influence grandissante dans la maison, une autorité à laquelle il se heurtait et dont il souffrait, celle de l'écuyer bâti, qui, par la suite, devait d'ailleurs épouser sa mère. Ce bâti n'était pourtant pas un méchant homme, mais avec lui, sans savoir pourquoi, Foutite n'arrivait pas à s'entendre. C'était constamment des discussions et des scènes où le jeune Foutite s'irritait de voir que sa mère ne lui donnait pas toujours raison. Tant qu'un beau jour, Foutite quitta brusquement le cirque maternel et se rendit à Londres, auprès de son oncle, Songer, dont la compagnie équestre était également fort avantageusement connue en Angleterre, et même sur le continent. L'oncle Songer, quand son neveu lui eut fait part des difficultés qu'il rencontrait chez lui et de l'honneur qu'il sollicitait d'être engagé dans sa troupe, tout d'abord ne répondit rien. Ce n'était pas un bavard, ni un expansif, que l'oncle Songer, c'était un homme d'action. Donc, sans cesser de mâchonner le cigare éteint qu'il avait toujours au coin de la bouche, et que les jaloux l'accusaient même de chiquer un peu, le directeur de la Songer's Company dit que l'on alla chercher Tom O'Shanter et qu'on l'amena sur la piste. Tom O'Shanter était un cheval admirable, mais qui avait la réputation solidement établie et justement méritée de n'être pas commode. Quand les hommes d'écurie virent, sur l'ordre de son oncle, Foutite enfourcher Tom O'Shanter et piquer les deux, ils se poussèrent du coude, clignèrent des yeux et se mirent à regarder tout de suite à terre pour apercevoir aussitôt l'endroit où ce jeune téméraire allait infailliblement rouler dès le premier tour. Mais la perspicacité des hommes d'écurie fut ici en défaut. Contrairement à tout espoir et à toute apparence, Tom O'Shanter, sous la direction de Foutite, s'était soudainement humanisé. Si tant est que l'on puisse dire d'un cheval qu'il s'humanise. Le certain est qu'il avait trouvé son maître, et un maître qui lui plaisait. Et quand, après quelques classiques exercices de haute école exécutés avec la sûreté et l'aisance la plus parfaite, Foutite eut ramené devant son oncle un cheval qui se laissait conduire vraiment, de la meilleure grâce du monde, l'oncle Songer, ayant pris le temps de rallumer son cigare, ce qui était la seule façon qu'on lui connût de traduire ses émotions, l'oncle Songer dit simplement « Tu débuteras demain soir, mon garçon. » Et c'est ainsi que Foutite entra au cirque Songer. Et c'est comme écuyer du cirque Songer qu'il allait faire sa première tournée en France. Ah, cette vie du cirque en tournée, l'arrivée dans les villes, la cavalcade. Foutite devait prendre part à la cavalcade debout sur un char traîné de 6 chevaux. Et il n'a jamais oublié son angoisse quand, dans la première ville, à Dunkerque, il s'aperçut, au moment de partir, que ses camarades, farce classique et que l'on ne manque jamais de faire aux débutants, ses camarades s'étaient amusés à embrouiller ses rênes. Et je vous laisse à penser s'il est facile de s'y reconnaître parmi les rênes embrouillées dont s'attellent 6 chevaux. Foutite ne se fâcha pas, en quoi il fut sage. car il est important, dans cette existence nomade, de prendre allègrement les choses et de montrer que l'on a bon caractère. C'est que l'on a sans cesse besoin les uns des autres, au hasard des étapes, selon les exigences de la route, et les mauvais coucheurs risqueraient de coucher parfois à la belle étoile. En général, on compose des escouades de quatre, dont chacun tour à tour a mission d'assurer le vivre et le couvert de ses trois compagnons. L'escouade de Foutit ne fut pas la moins joyeuse. Un soir, qu'après le spectacle il regagnait l'auberge où Foutit, fourrier de semaine, était venu dans la journée retenir deux chambres, comme il s'était un peu attardé, que l'aubergiste avait le sommeil dur ou qu'il était peut-être sourd, ou pour toute autre raison. Bref, ils ont beau sonner, carillonner, la porte reste close. « Sommes-nous bêtes ?» dit Foutit, qui, levant le nez en l'air, aperçoit entr'ouvertes deux fenêtres au premier. « Voilà nos chambres !» La courte échelle, un rétablissement, et Foutit est dans la chambre, en effet. Mais dans une chambre dont le lit est déjà occupé par un voyageur, lequel, réveillé brusquement, pousse un cri, prêt à bondir sur l'intrus. Mais Foutit s'excuse. « Pardon, nous nous trompions d'étage. » Et comme une apparition, ou mieux une disparition, il disparaît, d'un saut, par la fenêtre, retombe au milieu de ses compagnons, et constate tout bonnement « Ce n'est pas au premier, les chambres, c'est au second. » Et voilà, pour montrer que, malgré l'avis de certains médecins, il n'est pas toujours bon de dormir les fenêtres ouvertes. Chapitre 3. Les débuts de Foutit. Cette souplesse de Foutit, cette facilité tranquille et surprenante avec laquelle il accomplissait les sauts les plus prodigieux, tout cela trouvait merveilleusement son emploi dans les pantomimes fantastiques qui étaient une des spécialités du cirque Sanger. Lorsque, l'hiver venu, rentré à Londres, la troupe s'installait soit au Fussley Amphithéâtre, soit à Covent Garden Circus. Dans une pantomime notamment, Herne le chasseur, qui était alors célèbre, Foutit, qui, en maillot vert et sur la tête une ramure de cerf, personnifiait Herne lui-même, le chasseur maudit que poursuit la course infernale. Foutit, du toit d'une maison, devait s'élancer à la cime d'un arbre dont les branches, ployant puis revenant, le rejetaient dans la coulisse, de l'autre côté de la Seine. Vous voyez que l'aventure de l'auberge n'avait pu que constituer pour lui un excellent entraînement. Le triomphe d'Herne le chasseur fit cette saison du cirque Sanger le cirque à la mode. Et le duc de Clarence, qui avait l'honneur de recevoir, dans son château des environs de Londres, la reine Victoria et toute la famille royale, eut l'idée de leur donner, chez lui, le spectacle du cirque, et fit venir le cirque Sanger. On dressa les tentes dans le parc, il faisait un froid terrible, et Foutit, qui devait paraître débouchant du fond du parc avec ses six chevaux, Foutit a gardé le souvenir d'une de ces onglets qui marquent dans la vie, ou pour le moins dans les mains d'un homme. Et il n'empêche que cet onglet demeure le plus beau jour de sa vie. Et pour un peu, vraiment, il se demanderait si ce grand froid lui vint de la température et non plutôt de l'émotion. L'émotion de travailler devant la reine. Car Foutit est un excellent anglais, et un anglais très loyaliste. Il se plaît à rappeler que le roi Edward, alors prince de Galles, était un habitué de Covent Garden Circus, et qu'il le manda un soir dans sa loge, non pour de vains compliments, mais pour lui remettre une somme de 5 livres qu'il le priait de boire, lui et ses camarades, à sa bonne santé. Après cette saison exceptionnellement brillante, le cirque Sanger quitta à nouveau Londres et le Covent Garden et, comme l'année précédente, retourna en France. Et ce fut, au cours de cette tournée, à Bordeaux, il convient en effet de situer avec précision cet événement historique. Ce fut là que se décida la carrière de clown de Foutit. On ne connaissait jusqu'alors, en dehors de la pantomime, on ne connaissait que Foutit, écuyer, Foutit, le propriétaire de Tom O'Shanter, car Foutit, comme tous les écuyers de haute école, avait dû acquérir ce cheval, son cheval, pour devenir libre maître de ses exercices et de son dressage. Or, Foutit avait deux passions, son cheval et le jeu. Et il advint que ces deux passions se rencontrèrent de la façon la plus malheureuse. Dans un petit café, qui pendant leur séjour à Bordeaux était le quartier général de tout le personnel du cirque, Foutit faisait régulièrement, chaque jour, sa partie de poker. Et régulièrement, depuis 8 jours, il perdait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il pouvait, jusqu'au moment où, n'ayant plus un sou, il ne pouvait plus rien perdre. Plus rien ? Et Tom au chanteur ? Tom au chanteur contre 25 louis. Foutit gagna les 25 louis. Mais en 3 coups suivants, il reperdait les 25 louis, et avec Tom au chanteur. Et le pis est que le cheval avait été gagné par un écuyer, dont la femme cherchait précisément un cheval dressé avec lequel elle put faire un numéro de cirque. Naturellement, elle ne consentirait plus à prêter Tom au chanteur à Foutit. Elle se le réservait. Foutit était à pied. Et cette expression, quand il s'agit d'un écuyer, s'emploie vraiment dans toute sa force. Que devenir ? Il fallait vivre. Et Foutit demanda à prendre rang parmi les clowns de la troupe. Foutit me l'a dit, et je le crois aisément. Ce n'est pas une mince préoccupation que de s'improviser clown. Songez qu'il s'agira de parler tout à coup devant cette foule, sur cette piste où l'on avait accoutumé d'évoluer en silence. La première surprise est la crainte d'entendre ainsi résonner sa voix. Et cette fois, sera-t-elle non seulement claire, non seulement nette, mais sera-t-elle comique ? Aura-t-elle chance de plaire au public, de provoquer son rire et sa sympathie ? Car c'est le premier point. Il faut qu'au premier mot, une sorte de courant sympathique se soit établi entre le clown et le public. Sinon, tous les efforts du malheureux et ses grimaces et ses culbutes ne serviront à rien, n'atténueront pas l'échec lamentable et trop fatal. Donc, Foutit prononça les sacramentelles paroles. « Voulez-vous jouer avec moi ?» Et sans doute, à l'instant même, pensait-il qu'il eût été préférable pour lui de ne jamais proposer de jouer à personne. De jouer, s'entend, au poker. « Voulez-vous jouer avec moi ?» Un mouvement d'attention dans la foule, une rumeur joyeuse. Le courant sympathique était établi. Foutit avait parti gagné. Il était sacré clown par le public bordelais. Foutit avait choisi pour son début une scène traditionnelle, celle du mannequin sur qui le clown fait pleuvoir en toute sécurité gifles et coups de pied, jusqu'à ce que le mannequin, ayant été remplacé par un écuyer véritable, les coups de pied et les gifles se retournent comme de même, et miraculeusement, contre le clown. Mais l'ingéniosité de Foutit devait aussitôt s'exercer à la recherche de divertissements plus nouveaux. Quelquefois, à ses débuts, comme il avait une physionomie fine et jeune, on l'avait habillé en femme, et quand il paraissait ainsi transformé, avec un tricorne coquettement posé sur sa perruque, le public, de bonne foi, avait été souvent émerveillé par la science et l'intrépidité de cette charmante écuyère. Foutit eut l'idée de recommencer la chose, mais en parodie. Et c'est ce numéro de la parodie de l'écuyère qui établit sa réputation. Après tout, c'était encore un souvenir de Tom au chanteur. C'est dans cette parodie de l'écuyère que Paris applaudit Foutit pour la première fois. Au fond, il déplaisait à l'oncle Songer que son neveu, à qui il avait imposé le métier de clown comme une punition, y eut réussi. Foutit s'en rendait compte, et, sans qu'ils se fussent d'ailleurs fâchés ensemble, au lieu de rentrer en Angleterre avec son oncle, il vint à Paris, où il trouva bientôt un engagement à l'hippodrome de l'avenue de l'Alma. Paris est la ville qui consacre toutes les réputations, même celles des clowns. Foutit était déjà notoire, quand, pendant la clôture de l'hippodrome, il vint au Grand Cirque de Madrid donner une série de représentations. Le premier soir, comme il y avait eu course ce soir-là à Madrid, tous les clowns étaient habillés en toréador grotesque avec la petite natte au ras de la nuque. Footit fit son entrée, très correctement vêtu en toréador, drapé majestueusement dans sa cape, mais avec une longue natte de femme dans le dos, une longue et épaisse natte qui lui traînait jusqu'au talon, et dans laquelle il trébucha d'abord deux ou trois fois de suite, pour venir enfin s'étaler de tout son long au milieu de l'arène. Un tel rire, gros, énorme, retentit soudain, en dehors même du public, près de la barrière où se tient d'ordinaire le personnel du cirque, le personnel subalterne, que Footit, presque malgré soi, se retourna. Un nègre était là, un petit nègre d'une quinzaine d'années, qui s'était faufilé parmi les écuyers et qui riait convulsivement de toutes ses dents blanches. Ce petit nègre, c'était Chocolat. Chapitre 4. Le nègre Raphaël. Vous devez vous douter un peu, et vous apprendrez sans surprise que Chocolat ne s'est pas toujours appelé Chocolat. Mais ce que l'on imagine moins aisément, c'est le nom, le joli nom, le nom musical et charmant sous lequel il avait été baptisé. Raphaël. Chocolat s'appelle en réalité Raphaël. D'ailleurs, ce prénom gracieux est le seul témoignage que Chocolat puisse évoquer d'une sollicitude maternelle. C'est le seul héritage que lui aient légué ses parents. Ses parents? Il ne les a jamais connus. Il ne connaît même pas son âge exact. Enfant perdu, ou enfant trouvé, ce qui est la même chose, car on ne trouve que ce qui fut perdu. Le petit Raphaël n'a conservé dans sa mémoire que l'image d'une grande et forte négresse qu'il avait recueillie et qu'il nommait sa mère de lait. Cette négresse n'était pas tendre, et lorsque par la suite Chocolat, devenu l'admirable clown que l'on sait, dut faire profession de recevoir des gifles, on peut dire qu'il ne manquait pas d'entraînement, en sorte que sa mère adoptive donna, inconsciemment à Chocolat, l'éducation la mieux appropriée à sa carrière future. Des gifles, c'est en effet à peu près tout ce qu'elle lui donnait. Et Raphaël grandissait comme il pouvait dans ce populeux faubourg de la Havane où la négresse avait sa case et où, du matin au soir, il vagabondait et bataillait avec toute la fine fleur des galopins. C'est pareil. Pour être un des plus dépenaillés, et non des mieux nourris, le gamin n'en était pas moins un des plus robustes. Et comme un jour un autre polisson du quartier s'était avisé de l'appeler « sale nègre », Raphaël, il devait avoir alors de 8 à 10 ans, notre Raphaël tombe sur l'insulteur à bras raccourcis, roule avec lui dans le ruisseau et commence à lui administrer une raclée telle qu'il ne fallut rien moins que l'intervention d'un passant pour les séparer. Le passant, très bien, important, avec une belle canne, une grosse chaîne de montre et un grand chapeau gris de planteur. Chocolat le voit encore, devant ses yeux, comme si c'était hier. Le passant s'informe du motif de la rixe, examine Raphaël, l'interroge, apprend qu'il est seul au monde, à la charge d'une mère d'adoption. Et brusquement, comme se décidant, « Où habite-t-elle, ta mère de lait ? Mène-moi chez elle. » La case n'était pas loin. Quand la négresse voit arriver Raphaël en compagnie de ce monsieur très bien, de ce personnage, elle ne doute pas que le petit ait fait quelque mauvais coup, et déjà se lève sa main vengeresse. « Il ne s'agit pas de cela, » dit l'homme. « Je te l'achète. Combien en veux-tu ? » La négresse n'en croit pas ses oreilles. Elle se fait répéter la proposition, et voici que maintenant, elle se découvre pour Raphaël un attachement infini. Elle ne peut se décider à se séparer de lui. Elle ne se consolerait pas de sa perte, une perte inappréciable. Elle finit pourtant par l'apprécier, au prix de 18 onces, sur lequel on tomba d'accord. Et c'est ainsi que pour 18 onces, Raphaël devint la propriété du seigneur Castagno, riche portugais qui faisait avec les Antilles le commerce du riz et des céréales, et qui, venu pour passer des marchés à la Havane, en ramena ce petit nègre par-dessus le marché. Ce portugais était fixé en Espagne. Il avait ses comptoirs à Bilbao. C'est là que Raphaël débarqua d'abord avec son nouveau maître, et la ville, son animation, ses tramways, produisirent sur le jeune voyageur la meilleure et la plus agréable impression. Mais ce n'est pas Bilbao que devait habiter Raphaël. Le seigneur Castagno possédait, à une vingtaine de kilomètres, au village de Castrosopuelta, une propriété où il vivait avec sa mère, vieille dame très âgée, mais encore fort alerte, qui, en l'absence de son fils, le plus souvent retenu à Bilbao ou parti en voyage, s'entendait le mieux du monde à gérer ses fermes et eut rendu des points aux plus jeunes pour l'activité et l'autorité. C'est pour elle que le seigneur Castagno, fils attentionné, avait songé à ramener Raphaël comme petit groom. « On lui apprendra, ma mère, à mener la jument grise pour vous conduire au marché. » « Croyez-vous, mon fils, que je n'ai plus d'assez bons yeux ou les poignets assez solides pour conduire la jument grise ?» La vieille seigneura avait la manie, en effet, manie commune à beaucoup de vieilles et respectables dames, de voir en toutes choses, et dans les meilleures et dans les plus innocentes, de blessantes allusions à son grand âge. Elle n'aurait pour rien au monde voulu montrer quelque satisfaction de l'agréable idée de son fils et du présent qu'il lui venait faire de ce petit nègre. Et cela, au reste, ne l'empêchait pas d'être enchanté, car Raphaël ne lui déplaisait pas avec son allure décidée de petit homme qui n'a pas peur et sa grosse face épanouie. Et elle-même veilla à ce que, dans l'écurie où on l'installait, près de la jument grise, précisément, le petit eut une bonne paillasse et suffisamment de couverture. Chapitre 5. Les premiers exploits du Rubio. La vieille seigneura, qui, Dieu sait, n'était pas commode, tout de suite traita Raphaël avec bonté. C'est qu'il ne rechignait pas à la besogne, toujours prêt à faire une course, et si vif, aussitôt parti, aussitôt revenu. Qui donc prétendait que ces nègres étaient paresseux? Et avec cela, d'une force étonnante pour son âge, et pas bête, et qui paraissait dévoué. Trop hâtif engouement de la vieille seigneura, confiance, hélas, excessive, et qui précipita la catastrophe. Comme il arrive fréquemment à la campagne, le boucher du village ne tuait le bétail qu'une fois la semaine, et les habitants faisaient et payaient ce jour-là, pour toute la semaine, leur provision de viande de boucherie. Croiriez-vous que telle devint rapidement la confiance de la vieille dame, qu'elle voulut s'en remettre à Raphaël du soin d'aller payer le boucher? Hélas, la chair est faible. Non pas la chair de boucherie, mais celle d'un petit nègre, qui, il y a quelques mois à peine, se roulait dans tous les ruisseaux de la Havane. La chair est faible et la route était longue de la ferme des Castagnaux jusqu'à la demeure du boucher. La route était longue et fertile en jeunes polissons qui, pour être de Castrosopuelta, ne s'en seraient pas laissés remonter par leurs collègues havanais. 14 francs. Raphaël avait sur lui 14 francs que lui avait confié la vieille dame. Que ne peut-on faire avec 14 francs? Tout de même, on ne saurait acheter pour 14 francs de sucre d'orge et de billes. Seulement, quand Raphaël eut été lâchement et malhonnêtement entraîné à dépenser quelque 40 sous, il ne pouvait cependant plus aller chez le boucher, puisqu'il n'avait plus la somme complète pour acquitter sa note. C'est alors qu'un autre chenapan de son âge lui offrit la chance de compléter à nouveau la somme. On allait jouer à pile ou face, et peut-être ainsi regagnerait-il ses 40 sous. Raphaël ne regagna rien, et bien pis, il perdit jusqu'à son dernier centime, ou plus exactement, jusqu'à son dernier maravédis, puisque cela se passait en Espagne. Oh, la minute lamentable où le misérable et infortuné Raphaël se trouva à mi-chemin entre le village et la maison de ses maîtres, sans un maravédis vaillant. Tremblant de peur, rouge de honte, jamais le pauvre négrillon ne s'était senti moins blanc. Qu'allait dire la vieille signora? Rentrer auprès d'elle, il n'y voulait pas songer. Et comme la nuit venait, et que, brisé par tant d'émotions, Raphaël éprouvait le besoin de se reposer, de fermer les yeux, d'oublier, il pénétra dans un champ de blé qui bordait la route, et s'étant étendu derrière une gerbe, il s'endormit, sinon du sommeil du juste, du moins d'un sommeil profond. Or, quand le chant des moineaux francs et des alouettes l'eut réveillé, à l'aube, voici que, sortant sa tête peureuse d'entre les épis, il aperçoit un gendarme qui passait sur la route, faisant sa ronde. Comme tous les gens qui n'ont pas la conscience nette, la seule vue de ce gendarme suffit à bouleverser Raphaël. Pas de doute, on le recherche, on veut le conduire en prison. Déjà les castagnaux ont mis la maréchaussée à ses trousses. Et le voilà qui s'affole, qui se met à courir d'une allure désordonnée à travers champs, appelant ainsi sur l'attention du gendarme, qui, voyant quelqu'un se sauver à son approche, naturellement, lui aussi, se met à courir. Chocolat sait, en effet, depuis l'enfance, ce que c'est que de fuir à perdre haleine devant les gendarmes, devant le gendarme de Castrosso Puelta. Et cette fois, je vous assure bien qu'il n'avait pas envie de rire. Raphaël, toujours serré de près par le gendarme, finit de guerre lasse par prendre le chemin de la ferme pour se réfugier auprès de Madame Castagno, se jeter à ses pieds, implorer son pardon. L'excellente vieille signora, qui avait fort inquiété la brusque disparition de l'enfant, l'accueillit sans sévérité et même, pour ce qui était de l'argent, malgré qu'elle eût réputation d'être assez avare, ne voulut point paraître trop irritée. Elle pensa, avec une grande bienveillance, qu'il y avait un peu de sa faute, qu'il ne faut pas tenter le diable, ni, par conséquent, les petits nègres, qui sont noirs comme lui, et qu'avant de charger Raphaël de missions si délicates, il convenait sans doute de le mettre mieux à même de s'en rendre digne, et pour cela, de s'occuper un peu de son éducation, fort négligée, comme on a pu voir à la Havane. Et la conclusion de la signora fut qu'on allait envoyer Raphaël à l'école. Échapper aux gendarmes pour tomber sous la férule du maître d'école de Castrosso Puelta, pauvre Raphaël! Battu pour battu, Raphaël préférait du moins avoir goûté, auparavant, les bénéfices de l'école buissonnière. Et vraiment, pour Raphaël, buissonnière n'est pas assez dire. Les buissons, fi donc! Il lui fallait des arbres, les grands arbres, les plus grands arbres, tout en haut desquels il grimpait pour y dénicher les oiseaux. Et c'est en haut d'un arbre qu'un beau jour, balancé par le vent, il balança, en effet, comme jadis Hercule, entre le vice et la vertu, ou tout au moins entre la règle et l'aventure. Du haut de cette sorte d'observatoire où il s'était réfugié, et où il flânait parmi les branches, il distinguait ici, tout près, la ferme des Castagnaux. La vieille signora traversait la cour. Dans un pré voisin, on avait mis au vert la jument grise. Et là-bas, tout là-bas, n'était-ce pas les fumées de Bilbao? N'était-ce pas la ville qu'il devinait derrière le lointain horizon? La ville! Et son âme de petit faubourien se prit à rêver du divertissement des rues, de tout ce que la vie prend de variété, d'imprévu. La ville! Il jeta un coup d'œil sur la calme maison, sur la vieille signora, qui un instant s'était arrêtée au milieu de la cour et donnait à manger à ses poules. Il eut un dernier regard pour la jument grise, et puis, s'étant laissé glisser au bas de l'arbre, résolument, à grandes enjambées, le petit Raphaël prit le chemin de Bilbao. C'est sur un banc de square que Raphaël fit, dès l'arrivée, son premier déjeuner à Bilbao. Ce premier déjeuner, parbleu, cela allait tout seul. N'avait-il pas le petit panier de provisions qu'on lui donnait chaque jour à emporter à l'école? Les difficultés commenceraient avec les repas suivants. Raphaël n'avait pas un sou. car vous pensez bien qu'on avait cessé de lui confier la moindre somme depuis la fâcheuse histoire des 14 francs. Et avec cela, il ne pouvait guère songer à rien garder en réserve de ce déjeuner, à économiser, comme on dit, sur la nourriture. Sa course matinale jusqu'à Bilbao lui avait donné un appétit de tous les diables. Et aussi bien, pour se mettre à la conquête du monde, le premier point était d'avoir l'estomac solidement lesté. Tout de même, en dépit de l'optimisme naturel aux personnes qui sont en train, fût-ce pour la dernière fois, de manger convenablement, à leur faim, l'optimisme du jeune Raphaël n'allait pas sans une certaine inquiétude, à mesure que disparaissaient les dernières bouchées de ce jambonneau, qu'excellait à confectionner, à castrosopoelter Madame Castagno, dans les grandes cuisines de la ferme. Et il en venait à penser que, si la liberté est vraiment une très belle chose, c'est vraiment aussi une très bonne chose que le jambonneau. Eh bien, le rouquin, tu te régales ? Chapitre 6. Les tribulations d'un négrillon. Le nouveau venu, qui, s'approchant du banc, apostrophait notre négrillon avec ce sans-gêne ironique, le rouquin, le nouveau venu appartenait à cette classe de petits jeunes gens dont les faubourgs de Paris sont les premiers de l'univers civilisé à s'enorgueillir, mais que l'on trouve poussant également entre les pavés de toutes les villes. Classe qui comprenait Gavroche et qui renferme, par la même occasion, tout ce que l'on compte au monde de petits voyous. Celui-là, il pouvait bien avoir dans les 14 ans, tenait le milieu entre le petit voyou vulgaire et le légendaire Gavroche. Et les circonstances sont, pour nous, demeurées obscures, qu'il avait emmené à Bilbao, des quais de Bordeaux où il était né. Tout ce dont Chocolat se souvienne, sur ce compagnon de jeunesse qu'il a complètement par la suite perdu de vue, c'est qu'il s'appelait Bertrand et qu'on le surnommait couramment Trompette. Qu'est devenu Bertrand, dit Trompette? Et qui sait si la publicité de ces lignes ne permettra pas que Chocolat retrouve son camarade Trompette dans quelque industrie notoire, quelque puissant banquier, et à tout le moins un millionnaire. Car Bertrand, dit Trompette, avait le génie des affaires. À peine Raphaël avait eu le temps de mettre son jambonneau en sûreté, en avalant précipitamment les dernières bouchées, et à peine avait-il fait mine de repousser d'un poing un peu brusque l'intrus, Trompette avait d'ailleurs savamment esquivé le coup. L'intrus, qui s'avisait de l'interpeller irrespectueusement en raillant son visage noir. « Bien, bien, c'est entendu, » dit Trompette. « Tu es nègre, tu es fort, tu as bon appétit. Maintenant, veux-tu une cigarette ?» La mauvaise humeur de Chocolat ne pouvait tenir contre une offre si courtoisement faite. Et puis, dans cette grande ville où il ne connaissait personne, quelqu'un avec qui causer, quelqu'un de son âge, qui le renseignerait un peu, et qui paraissait assez débrouillard. Certes, le jeune Trompette était débrouillard, et tout de suite, aux premières bouffées de tabac, il exposait à son camarade émerveillé le plan d'une collaboration admirable, d'une association extrêmement fructueuse. Il s'agissait de guetter les voyageurs, les étrangers, à l'arrivée des trains, à la descente des tramways, pour porter leurs colis, leur indiquer l'hôtel, les guider dans la ville. À travailler seul, les bénéfices risquaient d'être incertains, car parfois, pendant que l'on accompagnerait, pour un profit médiocre, le voyageur de tel tramway, on manquerait au même instant le pourboire princier du voyageur qu'amènerait le train ou le tramway suivant. Et puis, Raphaël était nègre. C'est une grande qualité dans le métier. Cela flatte beaucoup de personnes qui aiment à faire porter leurs valises par un nègre. Quant à lui, Trompette, moins vigoureux que Raphaël, il en faisait loyalement l'aveu. Il était plus apte, sans doute, aux fonctions de commissionnaire et de guide, plus chasseur que portefaix. Mais justement, à eux deux, ils se compléteraient merveilleusement. Ils étaient armés pour opérer le trust des voyageurs de Bilbao. À eux deux, ils soulèveraient le monde, ou du moins les bagages de tout le monde. N'avions-nous pas raison de le proclamer que Bertrand, dit Trompette, avait le génie des affaires? Et le malheur fut que, peut-être, il poussait même ce génie parfois un peu loin. Raphaël, en effet, l'honnête et consciencieux Raphaël, ne tarda pas à s'apercevoir que plus lui, Raphaël, rapportait d'argent, le soir, à la masse commune, moins Bertrand semblait avoir été favorisé. Ce sont les jours où l'on avait le plus travaillé, les jours où Raphaël, à la sueur de son front, avait atteint des chiffres fabuleux, inespérés, et jusqu'à des 50 sous. Ces jours-là, Bertrand avouait des gains insignifiants, dérisoires. Et comme l'argent de Bertrand devait être confondu avec celui de Raphaël, pour que le total en fût ensuite rigoureusement et également partagé, les résultats de l'association apparaissaient, comme on le voit, et de la façon la plus outrageusement manifeste, apparaissaient surtout avantageux pour Trompette. Raphaël le constatait, mais sans acrimonie et sans dépit, estimant légitime, après tout, que Bertrand, qui en avait eu l'idée, fut le plus favorisé dans cette association, qui, au début, l'avait tiré de peine. Cependant, après des commencements assez heureux, l'entreprise ne prospérait guère. Il avait fallu compter avec la concurrence des commissionnaires plus anciens, patienter avec la rivalité hostile des portiers d'hôtel. Et puis, voilà-t-il pas qu'un beau jour, alors qu'il se précipitait sur un voyageur dont le bagage nombreux et l'apparence cossue lui semblaient du meilleur augure, Raphaël avait reconnu dans ce voyageur cossu le seigneur Castagno, son ancien maître. Certes, le seigneur Castagno avait dès longtemps pris son parti de l'ingrat abandon de son groom havanais, et bien qu'il sût parfaitement ce qu'il était devenu, il ne l'avait jamais poursuivi. Jamais il n'eût songé à lui nuire, ni à entraver sa carrière nouvelle. Et il n'empêche que Raphaël, que le hasard n'avait pas encore remis face à face avec le seigneur Castagno, Raphaël en éprouva un vague et soudain malaise, et, plutôt que de rester face à face, en effet, avait préféré prestement lui tourner les talons. Or, en rentrant à l'improviste, tout ému et tout essoufflé, dans la petite chambre qui abritait la raison sociale, Raphaël et Trompette, il trouva le dit Trompette qui ne l'attendait guère, car c'était l'heure où Raphaël était de service à la gare. Le dit Trompette usait de sa solitude pour coudre soigneusement dans la doublure de son veston les menus profits de sa journée, dont son associé put constater à cette heure qu'il avait été ainsi quotidiennement frustré. La raison sociale, Raphaël et Trompette, prit fin à l'instant même devant la flagrante indélicatesse de Trompette. Que devint par la suite Bertrand, dit Trompette? Encore une fois, nous n'en savons rien, et présumons simplement qu'un jeune homme si bien doué n'a pu manquer d'édifier une fortune. Fortune dont les premiers éléments auront été les économies qu'il avait si ingénieusement réalisées aux dépens du trop confiant Chocolat. Quant à Chocolat, séparé de Trompette, et séparé dans ces conditions que l'on devine peu cordiales, il ne voulut point persister dans un métier qui lui avait si mal réussi, et qui d'ailleurs devenait chaque jour moins florissant et plus difficile. Aussi bien la perspective ne lui souriait guère de se retrouver en concurrence avec le subtil et dangereux Trompette, non plus que de s'exposer encore à rencontrer le seigneur Castagno. Bien souvent, des camarades, devant qui il se plaignait des incertitudes de son métier de portefaix, de la mauvaise foi des clients et de la morte saison, lui avaient parlé des mines qui sont aux environs de Bilbao, et où, pour un gaillard robuste comme lui, et sérieux, il y avait à se créer une jolie situation, rien qu'à porter le minerai, une situation stable avec, pour le moins, 40 sous d'assurés par jour. Sans compter que, pour un nègre, il y avait en plus cet avantage que l'on ne craignait pas de se noircir les mains. Et courageusement, Raphaël s'en fut se faire embaucher dans les mines. Le pauvre Raphaël connut là des heures peu drôles. Sans doute, son existence était assurée. Mais quelle existence ! Perpétuel et monotone va-et-vient, avec la hotte de minerai pesant sur les épaules, et à la cantine, les maigres repas, et le coucher dans une cabane de planches. La seule distraction, c'était, le dimanche, de venir noyer les ennuis et les fatigues de la semaine dans les cabarets de Bilbao. Il faut dire que Raphaël y avait acquis une honorable notoriété. C'était un jovial compagnon, toujours prêt à rire des bonnes histoires que racontaient les orateurs de la bande, et qui, non plus, ne rechignait pas à payer à boire lorsque c'était son tour. Et puis, sa force, déjà remarquable, s'accroissait avec l'âge. Lorsqu'il y avait là un nouveau venu, il lui tenait volontiers un pari, comme de le soulever à bras tendus sur une chaise. Et comme le pari consistait toujours à s'abreuver de limonade, toute l'assistance y gagnait de contempler un bel exercice et de boire abondamment après, sans compter que le cabaret avait, lui aussi, le plaisir de vendre sa limonade. Raphaël était donc très avantageusement connu dans les cabarets de Bilbao. Fin de la première partie de Les Mémoires de Footit et Chocolat de Franck Nohain.